Vous avez pu vous dire, en entendant la deuxième lecture, quel drôle de choix d'avoir choisi le dimanche pour renouveler les promesses du mariage avec un tel texte. On pourrait même se demander si saint Paul était un lecteur de Sacha Guitry. Sacha Guitry qui disait « Le mariage, c'est résoudre à deux des problèmes que l'on n'aurait jamais eu tout seul ». Il semblerait qu'il y ait une vision assez pessimiste apparemment du mariage, fait de soucis, de distractions, de ce qui est l'essentiel. On pourrait même avoir l'impression d'une hiérarchisation. D'un côté, le célibat consacré, voire royal vers le ciel. De l'autre, le mariage, voie non pas fermée, mais encombrée, embouteillée. Une voie rapide d'un côté, et puis de l'autre, le boulevard Haussmann au niveau des grands magasins la semaine qui précède Noël. Alors s'il n'y avait dans le Nouveau Testament que la première épître aux Corinthiens, on pourrait le croire. Mais Paul n'a pas seulement écrit la première aux Corinthiens, il a aussi écrit l'épître aux Éphésiens, où il voit le mariage, les époux, comme le signe de l'union du Christ et de l'Église. Et il proclame « Ce mystère est grand ». Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'il avait fait une erreur? En fait, la conception du mariage de saint Paul s'est enrichie de sa conception du célibat consacré. La conception du mariage de saint Paul s'est enrichie de sa conception du célibat consacré. Je voudrais y réfléchir avec vous. Souvenons-nous que le célibat consacré était quelque chose de nouveau à l'époque de Jésus. On était habitué à la vocation au mariage. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au chapitre 2, on nous dit « Hommes et femmes, il les créa, croissez, multipliez-vous, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, tous deux ne feront qu'une seule chair. » Dans l'Ancien Testament, la stérilité était une honte que l'on portait. Le seul prophète à être célibataire, c'était Jérémie, et cela pour manifester la stérilité du peuple qui avait abandonné l'Alliance. En fait, cette notion du célibat consacré a été introduite par Jésus. On entend ceci, par exemple, en Matthieu 19. « Il y a, dit-il, en effet, des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. » Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent ? Jésus introduisait cette notion de célibataire pour le royaume des cieux. Jésus évoquait un appel qui saisit toute la personne et qui l'invite à répondre radicalement à sa suite. Comme on l'a entendu dimanche dernier, laissons tout, ils le suivirent. On rejoignait ainsi le style de vie de Jésus, tout consacré à la mission reçue du Père pour le salut des hommes. Mais la difficulté à l'époque de saint Paul, c'est d'exprimer la bonté de cette vocation nouvelle introduite par Jésus. Cet état de vie choquait les habitudes, on n'en voyait pas la bonté. Les exégètes d'ailleurs se demandent si cet enseignement de Jésus sur les eunuques n'est pas l'écho d'insultes qu'on lui adressait lui qui n'était pas marié à 30 ans, espèce d'eunuque, comment se fait-il que tu n'aies pas de femme ? De même, saint Paul, à la fin de ce passage, de ce chapitre 7, insiste aussi en disant « Je pense bien, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce qu'on devait l'accuser d'avoir un démon. Qu'est-ce que c'est que ces idées ne pas se marier ? Mais tu es un démon, Paul ! Paul dévoile la bonté de cet état de vie qui est le sien. Il en parle, c'est vrai, avec enthousiasme. Mais vous comprenez bien, c'est sa vocation. Heureusement qu'il en parle avec enthousiasme. Vous avez déjà entendu des parents parler de leur bébé et de dire « Mon bébé, c'est le plus beau du monde ». On comprend ce que ça veut dire. Ou bien le fiancé qui dit « C'est la plus belle, ma fiancée ». C'est bien et bon d'aimer sa vocation, même si ça peut induire un peu d'excès dans l'expression. Et Paul précise qu'il donne son avis. À d'autres endroits, il dit qu'il parle par ordre du Seigneur. Là, il dit qu'il donne son avis. Et son avis, c'est en référence avec son expérience personnelle. Donc, la bonté de cet état de vie nouveau, c'est l'appartenance au Christ, c'est ce qui est premier. Tout est bâti vis-à-vis du Christ, relation, possession, projet, parce que c'est ce qui demeure, c'est ce qui ne passe pas. Tout le reste, il faudra l'abandonner un jour, le laisser aller, le rendre. Dans cette consécration, on bâtit sur l'Éternel. Du coup, c'est vrai, je ne suis pas anéanti lorsque passent les choses de ce monde. Mon travail s'arrête, oui, mais ma vie ne s'arrête pas. Mon conjoint peut mourir. Certains pourraient se dire, ma vie n'a plus de sens. Mais ce que je reçois dans ce monde, je le reçois pour le chemin vers le royaume. Je suis appelé un jour à le rendre, à l'offrir, comme Marie au pied de la croix offre son fils, comme elle avait dû offrir son époux Joseph auparavant. La bonté de cet état de vie, c'est une disponibilité également. On n'est pas préoccupé par les affaires courantes de la vie familiale, les petites contraintes. Toute l'énergie est pour le service de la mission. Parce que c'est vrai, quand on est marié, légitimement, il faut s'occuper de son conjoint, de ses enfants, des ressources de la famille. Le soir, on n'a pas forcément l'énergie pour les choses de Dieu, pour l'écriture, la prière. C'était aussi, dans l'esprit de saint Paul, il y avait une bonté particulière à cette consécration à cause de l'urgence. À l'époque de la première aux Corinthiens, saint Paul croit à un retour du Christ pour les mois à venir, en fait. Ben, il faut aller à l'essentiel, alors. À quoi bon passer toute votre énergie pour la préparation de vos noces, alors que vous n'aurez pas le temps de les célébrer? Le Christ va venir dans sa gloire. Voilà, dans 2 mois, il est là. Ne gaspillez pas votre énergie. Alors, on découvre une bonté de cette vocation nouvelle, de cette consécration nouvelle. Et je voudrais, là, élargir un petit peu cette notion de consécration. La notion de consécration déborde le strict cadre de vœux solennels. Il y a des vies qui sont de fait consacrées sans qu'il y ait eu une expression publique de cette consécration. Par notre baptême, nous vivons déjà une consécration que nous pouvons plus ou moins solenniser, mais notre baptême nous consacre au Seigneur. Je dis cela notamment parce que c'est un des aspects de notre paroisse qui est composé de nombreux célibataires. Comprenons que par cette consécration baptismale, la vie de célibataire que nous pouvons mener n'est pas une demi-vie, n'est pas une vie inaccomplie, n'est pas une vie sans fécondité. Par notre baptême, nous sommes consacrés et nous pouvons donc, dans notre célibat, alors même que nous n'avons pas prononcé des vœux pour toute notre vie, nous pouvons le faire, mais alors même que nous n'avons pas prononcé des vœux pour toute notre vie, nous pouvons choisir d'offrir ce temps dans la consécration au Seigneur. « Seigneur, cette semaine qui vient, je te la consacre dans mon agir, dans mes pensées, dans la disponibilité de mon corps. » Cette consécration au Seigneur n'est pas trop loin de nous. À partir de notre baptême, nous pouvons la vivre. Cette consécration s'étend à ce choix en conscience devant Dieu qui engage notre vie. Alors, si saint Paul constate que l'imminence de la venue de Jésus se relativise, le signe de la consécration du célibat va demeurer. Et du coup, saint Paul redécouvre et approfondit que l'ordinaire du mariage a toujours sa place. Oui, dans le mariage, on a aussi le temps de se préparer, de célébrer ses noces, d'avoir des enfants, de les élever, et de découvrir que le mariage est vraiment aussi un chemin vers le royaume. Et donc saint Paul, à partir de l'image du célibat consacré, relie le mariage transformé par ce signe du célibat consacré. On est donc appelé à vivre le mariage. Le mariage n'est plus seulement une réalité naturelle, il n'est plus seulement la perpétuation de la vie humaine, il n'est plus seulement un accomplissement du don de soi et de la volonté de donner la vie. Le chrétien est celui qui appartient au Christ, qui bâtit tout sur le Christ, qui suit le Christ, comme le dévoile justement le célibat consacré. Suivre le Christ, c'est une possibilité de bonheur, de don de soi, de fécondité, d'équilibre. Et cela peut se vivre dès la consécration du célibat. Et donc le chrétien qui se marie est appelé à vivre son mariage comme une appartenance au Christ. Le mariage est désormais le signe de l'appartenance radicale au Christ du chrétien. Appartenance radicale au sens de racine. Sa racine est dans le Christ, dans la consécration au Christ. La relation au conjoint est signe de l'amour du Christ pour l'Église. Le souci de la vie de couple et de la vie familiale ne se voit plus alors comme un souci qui distrait de Dieu, qui rend moins disponible au Christ. Le couple, la vie familiale sont le chemin pour suivre le Christ, pour vivre du Christ, où l'on se consacre au Christ. Le mariage comme sacrement est une forme de consécration au sein de notre baptême. Le chrétien vit sa consécration baptismale au Christ au sein du mariage. Le conjoint est un visage du Christ et celui que me donne le Christ. Le conjoint est celui avec qui je donne une image de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et parce que c'est une union au Christ, ce sera d'un côté une source de joie, d'émerveillement, à la manière du cantique des cantiques. Tu es toute belle, ma bien-aimée, sans tache aucune. Mais ce sera aussi une source d'épreuve. Souvenons-nous du prologue de saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Et parfois on fait cette expérience-là au sein de notre couple, au sein de notre famille. C'est Jésus qui pleure sur Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu te rassembler sous mes ailes, à la manière dont une poule rassemble ses poussins. Vous n'avez pas voulu. C'est Jésus qui entre dans sa passion en disant « Mon âme est triste à en mourir ». C'est Dieu qui est fidèle, mais qui porte aussi, parfois douloureusement, cette fidélité. Rappelons-nous comment Moïse fut mis à l'épreuve, quand Dieu, après le veau d'or, au moment où le peuple refuse d'entrer dans la terre promise aussi, Dieu dit à Moïse, « Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai, mais de toi, je ferai une grande nation. » C'est une épreuve. Pourquoi ? On le voit, ce qui se produit, Moïse d'un côté et Jésus, le nouveau Moïse, ne jette pas le peuple de Dieu malgré toutes les difficultés qu'il porte. Il ne jette pas le peuple de Dieu, épouse de Dieu, pour en prendre un autre, pour essayer l'aventure avec un autre. C'est le même peuple que le Seigneur conserve, ce peuple dont il est dit qu'il a la nuque raide. Vivre la consécration baptismale dans le mariage, c'est suivre le Christ dans le mystère de sa mort, mais suivre le Christ aussi dans le mystère de sa résurrection. Vivre le mariage à travers un mystère de mort et de résurrection. Vivre la fidélité dans l'espérance de la résurrection de l'amour dont Dieu est la source. Vivre la fidélité dans l'espérance de la résurrection de l'amour dont Dieu est la source. Dans le sillage du célibat consacré, de la consécration baptismale. Cette consécration baptismale élève le mariage dans le mystère pascal. Elle donne aux époux chrétiens de vivre, de témoigner de la fidélité de Dieu, de la fidélité pascale de Dieu. Et donc nous sommes appelés à vivre non pas l'indifférence, non pas en espérant un autre partenaire, mais vivre avec celui-là, se convertir avec celui-là, devenir en esprit et en vérité fidèle à Dieu avec celui-là. Seigneur Jésus, en ce dimanche, consacre-nous dans la grâce de notre baptême. Donne-nous de vivre notre consécration baptismale, même dans le célibat, comme signe de ce que tu es la racine de toute vie, de tout amour et de toute fidélité. Consacre-nous dans l'Esprit Saint et que nous devenions, pour ceux d'entre nous qui sommes mariés, par nos vies offertes à notre conjoint, à Dieu à travers notre conjoint et notre famille, le signe brûlant, ardent de ta fidélité et de ta victoire. Amen.